RMC 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Il est 9h11, c'est RMC et c'est le week-end des experts. Le week-end des experts, chaque samedi et dimanche, les meilleurs experts de France m'accompagnent. Jardin maison samedi et puis animaux et automobiles le dimanche. Merci d'être là et très très bon week-end avec nous. Christian Pesset est à mes côtés, vous le savez, c'est notre expert maison. Et jusqu'à 10h, nous allons évoquer ensemble le vin et les caves à vin.
Oui, et les caves, presque tout court, on n'est pas toujours obligé d'y mettre du vin. Enfin, si elle est bonne, la cave, c'est quand même une autre chose. Alors, c'est vrai que les maisons contemporaines, c'est vrai qu'on fait pas quand même très attention à la cave, comme on disait attention autrefois. Pourquoi on y
C'est bien dommage d'ailleurs.
Pourquoi on était très attentif dans les maisons des siècles derniers, c'est que la cave, c'était là où on conservait tout. C'est-à-dire, on conservait évidemment le vin, mais on conservait aussi les légumes, voire les viandes à travers les salaisons qu'on mettait quand même à température raisonnable. Et nos maisons d'aujourd'hui sont souvent des maisons de plein pied avec éventuellement un vide sanitaire, mais il y a rarement une cave. Mais il y a la possibilité, on va le voir, aussi d'équiper, d'aménager certaines parties de cette cave.
D'ailleurs, alors, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, c'est maintenant.
Hein. Jusqu'à 10 ans, on va évoquer tout ça avec nos invités prestigieux qui seront là pour répondre à vos questions.
Tout à fait.
Donc 3216 ou bien maison@rmc.fr.
Alors nous avons avec nous en studio Olivier Poussier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Olivier, vous êtes chef sommelier de la maison Le Nôtre. Entre autres, j'allais dire, vous avez été meilleur sommelier du monde 2000. Vous êtes déjà venu dans ce studio, donc
oui.
vous êtes un habitué. Puis on aura Christian Martret qui est sélectionneur des vins pour venteàlapropriété.com. On verra ce que peut représenter aussi Internet dans ce domaine.
C'est vrai que la vente de vin sur Internet a véritablement explosé.
Franck Rambeau qui nous parlera justement de la climatisation d'une cave, c'est-à-dire comment on peut transformer un espace qui n'était pas forcément une cave, qui n'est pas forcément enterré, en lieu de conservation du vin. Et puis on aura Éric Leclerc qui est directeur d'Elicave et qui lui nous expliquera comment on peut créer justement une vraie cave enterrée avec des moyens, de type kit. Il nous expliquera ça tout à l'heure.
Très bien.
Olivier Poussier, il va être bon le vin cette année parce qu'on entend tout et son contraire. On entend que, comme il n'a pas fait beau, tout à fait, comme il n'y a pas eu beaucoup d'eau, comme maintenant il y en a beaucoup. On entend dire qu'il va y en avoir peu, ça on le sait, les rendements vont être faibles, mais on entend dire, mais il va être très bon. Alors est-ce que c'est, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis un peu sceptique.
Oui, tout à fait. C'est une année assez compliquée.
Voilà.
Elle est compliquée depuis le départ, donc depuis la floraison qui a été difficile, avec toute la continuité derrière, c'est-à-dire climatiquement parlant, un mois de mai, un mois de juin, un mois de juillet, pas terrible. Donc des pressions de mildiou, des pressions d'oïdium, donc des maladies cryptogamiques qui n'ont pas guéri. Donc beaucoup de passages, beaucoup de traitements et une saison compliquée pour les vignerons et difficile.
D'accord, on peut pas dire que ce soit, le 2012 va pas être
les grandes maisons, quoi. On va pouvoir faire confiance encore aux grandes maisons.
Non, on peut dire quand même que climatiquement, on peut séparer quand même deux aspects. La partie méridionale, tout le vignoble du bassin méditerranéen, je pense qu'on peut avoir de jolies surprises.
D'accord.
Parce qu'ils ont été un peu plus épargnés par le climat. Ensuite, sur les autres régions, il y aura du tri de la sélection à faire, c'est évident.
Bon, c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde parle de vin, puisque les foires au vin battent leur plein un petit peu partout. Les grandes surfaces communiquent énormément là-dessus.
Oui.
Et on a plein de questions sur ce sujet.
Alors justement, on a plein de questions. Alors je vais dire très franchement ce qui s'est passé.
Oui.
J'ai voulu avoir Leclerc, j'ai voulu avoir Auchan, j'ai voulu avoir Carrefour. Et quand ils m'ont demandé des questions, parce qu'ils sont très prudents, alors j'aurais dit d'abord que c'était les auditeurs ici qui posaient les questions et en fil de discussion. Et quand j'aurais dit, est-ce que ce sont les bons millésimes? Est-ce que les vins ne sont pas chahutés?
Juste une précision, parce que notre productrice a eu le responsable d'Auchan qui était disponible, mais il était trop tard en fait pour organiser ça. Mais il pouvait parler.
Bon,
voilà. Non, il faut quand même dire la vérité.
Disons la vérité.
Pour Auchan,
en tout cas, je me suis fait vraiment envoyer sur les roses par Leclerc. Parce que j'ai dit que j'allais poser ces questions. Alors que je les pose à vous.
Sur les rosés, plus précisément.
Pourquoi? La foire au vin, rosé,
ah oui,
tout ça.
D'accord.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces foires au vin? Parce que moi, j'ai toujours l'impression que ce sont justement pas forcément les bons millésimes. Ce sont des vins qui sont quand même assez chahutés. Quel est votre avis?
Il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on peut pas aujourd'hui dissocier dans la vente du vin et le monde du vin la distribution que représentent les grandes surfaces. C'est évident. Aujourd'hui, je crois que 70 voire 75% de l'acte d'achat du vin est fait dans des grandes surfaces.
Mais oui.
La seule chose qu'il y a, c'est qu'effectivement, même s'il y a eu un progrès substantiel qui a été fait dans la présentation, dans le respect, je dirais, que les vins ne seront pas soumis à des néons, parce que là aussi, l'action des ultraviolets, la maîtrise des caves aussi, peut-être séparées, qui nous permettent d'avoir des températures plus adaptées pour que le vin ne soit pas soumis à des hausses de température pendant qu'il est stocké dans les grandes surfaces. Donc, il y a eu des tas de choses qui ont été faites et qui vont dans le bon sens. Après, cependant, vous avez raison de dire, moi je pense qu'effectivement des grandes régions viticoles sont très bien représentées parce que il n'y a rien de plus facile d'avoir une large représentation sur des vignobles tels que le Bordelais.
Mais oui.
Ensuite, sur des vignerons de qualité dans d'autres régions, c'est beaucoup plus compliqué. Alors il y a quelques marchés parallèles qui fait qu'on peut avoir tel ou tel bon vigneron sur une région qui est présent, mais c'est compliqué.
Juste une question, Lévis Poussé, comment ça marche les foires au vin? Quel vin arrive dans ces hypermarchés? Comment ça se passe? C'est quoi? C'est des restes de stock que les grandes maisons n'arrivent pas à vendre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a parfois des bouteilles exceptionnelles qui arrivent malgré tout?
Oui.
J'imagine qu'elles sont peu nombreuses.
C'est toujours pour il y a une part d'attractivité, si vous voulez, quand vous mettez une petite armoire à vin avec des bouteilles magiques et des noms prestigieux qui font rêver. Et puis à côté, bah vous avez toute une masse de vins qui représentent qui sont pas du même niveau. Bon, c'est le marché qui est comme ça. Il y a des vins qui sont porteurs d'image, il y en a d'autres qui sont pas. Il y a aussi des soirées privées avant l'ouverture.
Oui. Où là, on peut faire peut-être de bonnes affaires parce qu'on est l'un des tout premiers, c'est ça?
Mais voilà. Est-ce que les sommeliers qui sont dans ces rayons sont des vrais sommeliers ou est-ce que ce sont des vendeurs à qui on a mis un tablier noir et un tire-bouchon entre les mains?
Il y a quelques sommeliers qui font des prestations dans des grandes
D'accord.
surfaces.
Il y a quelques sommeliers.
Et il y en a d'autres qui ont une formation de sommellerie. Il y a plusieurs consultants, plusieurs indépendants qui peuvent venir, effectivement.
Quel conseil vous pourriez nous donner, voilà, à tous ceux qui nous écoutent? Nous sommes samedi, on va aller sans doute faire des courses dans les grandes surfaces, on est peut-être tenté. Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner à tous ceux qui nous écoutent?
J'ai envie de vous dire, Le côté embêtant un petit peu avec le vin, bon, sans être trop puriste sur les bords, mais c'est vrai que le vin grande surface, vous arrivez dans les linéaires de vin avec un nombre de bouteilles incalculable, et souvent le consommateur lambda ne peut pas s'y retrouver. Donc je pense qu'il est important d'étudier bien les catalogues, de se renseigner avec des guides qui peuvent vous mâcher le travail.
Oui, c'est-à-dire, pas d'achat d'impulsion là.
Voilà. Et moi, ce que je conseille surtout aux consommateurs, c'est l'achat d'impulsion, choisir une bouteille, si ça lui plaît, il revient et puis il vient chercher une caisse. Ouais. C'est important quand même, je pense, de bien sélectionner ses vins.
Donc ne pas acheter une caisse tout de suite, acheter peut-être un échantillon, c'est-à-dire une bouteille, voir un petit peu ce que ça donne.
Voilà. Mais c'est vrai, mais moi je fais souvent ça et puis bon, j'y pense plus, j'y retourne plus. Donc,
voilà, c'est ça. Les médailles, parce que ça c'est une spécialité dans le domaine du vin, il y a des médailles partout, des médailles d'or, d'argent, de bronze, etc. On est tout de suite attiré par ça. Est-ce que c'est une légitimité à être attiré par des bouteilles avec des médailles dessus ou pas?
Bon, alors,
sincèrement, on est entre nous, là.
Je sens notre Olivier.
Non,
mais. Je suis un peu gêné.
Non, pourquoi gêné?
Je suis pas gêné du tout. Juste qu'effectivement, il y a des concours qui sont plus ou moins intéressants. Et je pense que si, en résumé, l'habit fait pas le moine. Donc, j'ai un temps de vous dire que la médaille n'est pas forcément source de qualité.
Voilà. J'aime bien. Voilà. D'accord. Bah, tout est dit.
Bon, c'est du bidon, quoi.
Voilà. Pas forcément. Il y a des concours qui sont plus intéressants que d'autres. C'est sûr que le concours agricole reste quelque chose qui quand même a une certaine réputation et notoriété, mais ceci dit, il faut quand même être vigilant de temps en temps.
Dans un instant, nous allons avoir David. Olivier, vous allez peut-être pouvoir lui répondre parce qu'il souhaite acheter une cave à vin et il a plein de questions sur ce sujet, donc on va en parler avec lui. 32-16, si vous avez des questions donc sur les caves à vin, sur les caves tout simplement, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Et puis Christian Martré nous rejoindra, qui est sélectionneur des vins pour vente à la propriété.com. A tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts.
Le week-end des experts sur RMC, votre maison, François Sorel, Christian Pessé.
Oui, mais là, on a entendu les glaçons.
Attendez. Ah. Non mais, on est d'accord qu'Olivier Poussier, si on met des glaçons dans le vin, c'est qu'on a un problème.
Oui, complètement, je l'affirme.
On est d'accord.
Autant y mettre de l'eau.
C'est la faute de notre producteur, ça. Regardez-le, il met des glaçons dans son vin. Oui. Cela dit, il est un peu marseillais, donc on peut imaginer que c'était du pastis.
Oui. Hein, c'est mais ça. Vous
non,
savez
on parle pas de pastis ce matin.
Vous savez qu'autrefois, on mettait régulièrement de l'eau dans le vin.
De l'eau dans le vin.
Napoléon coupait régulièrement. Son chambertin.
Non, mais parce qu'il fallait qu'ils restent sobres.
Non, parce qu'ils étaient très forts.
Ah oui, c'est pour ça.
Ils étaient très hauts en alcool.
On accueille David tout de suite sur RMC. Bonjour David.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue
bonjour,
David, on vous écoute.
Merci.
Et alors notre sommelier star, Olivier Poussy, vous écoute.
Voilà, donc en fait, je commence à avoir un petit stock de bouteilles de vin rouge et rosé. Et je me posais la question sur la conservation du vin. Donc, j'ai pas de cave enterrée. Et j'aurais voulu acquérir une cave à vin. Mais alors, il y a tellement de choix, de prix, de qualité. Donc, je suis un peu perdu dans
tout alors, le... Olivier, donc, il y a plusieurs types. Il y a cave à vin et cave à vin d'appartement. Hein, c'est pas...
Tout à fait. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Écoutez, dans votre cas, je crois que vous avez besoin surtout d'une cave qui soit fonctionnelle et que vous puissiez utiliser d'une manière constante. Donc, surtout dans le choix que vous allez avoir, et vu la diversité des vins que vous possédez dans votre cave, il est important de choisir une cave plus de multi-température, c'est-à-dire bi-température ou tri-température. Je m'explique. Si vous choisissez une armoire à vin mono-température, vous allez avoir une température unique qui va être surtout basée pour un potentiel de garde.
Alors, c'est-à-dire pour conserver, hein.
Voilà.
Potentiel de garde.
Voilà.
Capacité à conserver.
Voilà,
d'accord.
Donc des caves monotempérature. Dans votre cas, j'imagine que cet espace que l'armoire va prendre, vous avez besoin de qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit utile pour des repas, pour des dîners. Et le but, c'est d'avoir des vins blancs à bonne température et des rouges à bonne température. C'est donc le but de cette multi-température, de ces bi- ou tri-température, vous permet d'avoir accès à une armoire à vin qui, à la fois, remplit toutes ses fonctions. Quand vous avez besoin d'un vin blanc, il est à bonne température, coincé entre 8 et 12. Les rouges sont entre 16 et 18. Et puis, vous avez un petit compartiment pour des bouteilles de garde. Donc ça, c'est ce que je vous conseille, moi.
Et la capacité à peu près
Alors ça dépend, les tri-températures généralement sont des grandes armoires
250.
Qui ont 240 bouteilles à peu près.
Oui, d'accord.
Vous avez combien de bouteilles, David?
90,
100
à peu près pour l'instant.
Eh ben voilà, vous prenez une 240 et puis
vous
la remplissez au fur et à mesure.
Petit à petit.
D'accord.
Ça peut être pas mal. Ça peut coûter combien, Olivier Poussy, une cave à vin comme ça?
Alors ça dépend des prestataires. Si on parle des belles caves à vin, je dirais bien faites, hein, qui ne sont pas des frigos. Je fais la différence entre les armoires à vin et des frigos.
Ouais, on va dire à Liber, par exemple.
On en voit quelques-unes qui ressemblent plus à des frigos. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'une armoire à vin, même si elle a le physique, le profil d'une armoire à vin, elle doit avant tout, bien sûr, gérer de sa température, mais avant tout aussi produire de l'humidité.
Oui.
C'est-à-dire que le froid assèche aussi, peut assécher les bouchons comme le chaud. Hein. Donc, il est important que, surtout que cette armoire à vin respecte des conditions d'humidité qui fait que l'élastique du bouchon est toujours la meilleure.
Et qu'elle soit bien suspendue aussi, pas de vibration.
Alors, ça peut aller pour prendre des prix. Une belle armoire à vin de 240, on peut monter jusqu'à 2500 euros.
Oui, c'est 2500 euros.
Hein. La base, d'accord. C'est 1200 à peu près pour les vraiment la base.
Est-ce que ça consomme beaucoup d'électricité, une cave à vin?
Non, comme un frigo, quoi, à peu près. Hein.
Comme un frigo, d'accord. Très bien, Olivier, vous avez des infos là-dessus, non?
Je suis pas un expert en consommation électrique, mais je laisse à Christian.
Oui.
Mais
on peut imaginer que ça consomme comme un frigo.
C'est du même ordre.
Très bien. Alors, on va revenir dans un instant sur RMC. On va poursuivre sur ce sujet jusqu'à 10h dans ce week-end des experts. N'hésitez pas, tout comme David, à nous appeler pour poser vos questions. 3216 ou bien maison@rmc.fr. On revient après la météo et les infos de 9h30. À tout de suite. Bon, vous l'avez compris, Christian.
Ça s'appelle la question flash.
Tenez-vous à carreau. En moins de 2 minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Caroline.
Je te jure.
À quoi sert le bloc avec un gros bouton rouge et un siphon en plastique sous le ballon d'eau chaude? Quand il goûte, que faut-il faire?
Alors, ce bloc avec un gros bouton rouge, ça s'appelle le groupe de sécurité.
Ah, c'est donc lui.
Sous le chauffe-eau, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à absorber les différences et les augmentations de pression dans le ballon qui sont liés au chauffage de l'eau. L'eau se dilate un peu et donc il faut bien une soupape de sécurité. Alors, d'abord, ça a une fonction de puisage, donc pour faire rentrer l'eau aussi dans le chauffe-eau. Et on verra, ça a aussi une fonction de vidange. Mais c'est surtout la fonction soupape de sécurité qui nous intéresse, c'est-à-dire que quand la pression dépasse cette barre, ça fuit en quelque sorte. Ça fuit, c'est-à-dire ça dégage de l'eau et ça goûte. Alors, c'est normal que ça goûte. C'est normal puisque c'est fait pour ça. Ça peut dégager à peu près jusqu'à 3% de la quantité d'eau d'un ballon dans une journée. Donc on voit que ça peut être relativement important. Il ne faut pas que ça coule suivant un filet, parce que s'il y a un filet d'eau,
bien là, c'est trop.
C'est qu'il y a un problème avec l'appareil lui-même. Alors ça aussi, je le disais tout à l'heure, une fonction de vanne de remplissage. Ça sert aussi à vidanger le chauffe-eau quand on en a besoin. Et puis ça a aussi une fonction de vanne anti-retour, c'est-à-dire que ça évite que de l'eau retourne dans le réseau, ce qui pourrait avoir des risques sanitaires importants. Alors, normalement, cette vanne, il faudrait la manier, c'est-à-dire la vanne de vidange, il faudrait la manier, allez, je vais dire tous les mois. Évidemment, on ne le fait jamais. Et si vous ne l'avez pas fait, eh bien, ne le faites pas, parce que vous aurez toutes les peines du monde à la refermer et ça risque de continuer à fuir.
32-16 pour toutes vos questions maison sur RMC. Nous vous attendons. À tout de suite.
Appelez RMC au 32-16. 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. De la cave au grenier, du sol au plafond, RMC s'occupe de votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
Le week-end des experts sur RMC. On a pas mal de choses à vous raconter. Alors, bien sûr, dans un instant, on va revenir sur notre sujet de ce samedi matin, le vin et les caves. Mais auparavant, je tenais à vous signaler que la semaine prochaine, entre 9h et 10h sur RMC, nous allons parler en fait de notaire,
oui,
d'immobilier.
Voilà, tout ce qui tourne autour. Il va y avoir les rencontres notariales jeudi prochain dans toute la France. Donc, je vous invite à y aller. Mais on va aussi avoir, nous, notre notaire qui sera en studio la semaine prochaine. On parlera aussi parfois de confrontation, un petit peu de concurrence entre les notaires et les agents immobiliers. On parlera aussi de diagnostiqueurs, puisque 60 millions de consommateurs a mis un petit peu les pieds dans le plat. Et on aura notre ami Jean-Pierre Moliat de la FNESI qui répondra à ces attaques en quelque sorte et qui nous dira comment évolue la profession.
Voilà, et à ce sujet, vous pouvez dès maintenant poser vos questions.
Vous pouvez vous inscrire, si j'ose dire.
Ce thème qu'on évoquera entre 9 et 10, par exemple, les diagnostics immobiliers. Avez-vous testé, avez-vous réalisé des diagnostics ou fait réaliser des diagnostics immobiliers dans votre habitation, en vue peut-être de la vendre? Comment ça s'est passé? Racontez-nous, dites-nous, 3216 ou bien maison@rmc.fr, on en parlera la semaine prochaine.
Le notaire a traîné un peu, c'est-à-dire ça a duré 3 mois entre le compromis et la vente. Pourquoi?
Voilà, question.
Vous trouvez que c'est trop cher en frais de notaire.
Exactement. Question aussi à des agents immobiliers, en tout cas liés à la transaction immobilière. Dès maintenant, vous pouvez les poser 32-16. Cadeau sur RMC. Ce matin, nous vous offrons par SMS une superbe boîte à outils qui non seulement est très belle, mais en plus elle est remplie.
Voilà, une très belle boîte à outils Facom Probac. C'est un sac textile avec ses 27 outils. Elle est offerte par le magazine System D. Donc, et puis Facom, et puis nous, bien sûr, RMC.
Évidemment.
C'est un très beau cadeau d'une valeur de 170 euros, 8 tournevis, 9 clés mix, 9 clés mâles, une pince multiprise gainée, etc. C'est vraiment un très beau cadeau.
Et vous avez un morceau de Christian PC aussi à l'intérieur. Hein.
Oui.
Je ne sais pas si on vous l'avait dit.
Oui,
on vous découpe après et on met un bout de Christian PC.
Doigt par doigt.
Voilà, doigt par doigt. Et comment ça marche si vous voulez remporter cette boîte à outils? C'est très simple. Vous nous envoyez par SMS le mot maison, par SMS, donc au 732-16. Vous tapez maison sur votre mobile, vous envoyez ça au 732-16. Vous recevez un accusé de réception et automatiquement vous participez au tirage au sort. Bonne chance pour cette belle boîte à outils. 9h37 et maintenant, donc jusqu'à 10h, nous allons continuer notre sujet passionnant sur le vin et les caves.
Tout à fait, nous avons toujours Olivier Poussier avec nous, chef sommelier de la Maison Le Nôtre et meilleur sommelier du monde 2000. Et puis on a un de ses confrères qui est en ligne, qui est Christian Martrait, sélectionneur des vins pour venteàlapropriété.com. Bonjour monsieur Martrait.
Bonjour. Bonjour à tous et bonjour Olivier.
Bonjour Christian. Alors, dites-moi... Internet, est-ce que c'est bien sérieux d'acheter des vins sur Internet? Parce que là, pour les goûter, il va falloir attendre qu'ils arrivent à la maison. Quelles sont les garanties? Comment on a l'impression que ça explose ce type de commercialisation?
Oui, c'est vrai que le marché du vin sur Internet explose. Et c'est bien logique. On achète très volontiers des livres sur Internet. On achète maintenant du vin sur Internet avec un certain succès. Logiquement. Les sites utilisent des experts Nous en sommes deux bons exemples, puisqu'Olivier et moi-même, nous sommes sélectionneurs pour ventealapropriété.com. Nous dégustons tous les deux mois 360 bouteilles en une seule journée.
Eh ben, dites-moi, vous devez être propre. Hein. Ah, vous devez être beau après non, mais, ça. Hein.
Parlons,
et vous crachez, vous crachez.
Voilà. On crache tout, on crache tout, je vous assure qu'on crache tout.
On crache tout, j'espère.
Au bout de chacun 180 bouteilles, on essaye de dénicher les perles rares, confirmer des gens qui ont déjà du talent et qui sont reconnus dans les nombreux guides, et aussi, bien sûr, découvrir des nouveaux vignerons qui proposent leur vin et qui ont une occasion unique de pouvoir diffuser leur vin sur tout le territoire français avec une logistique très impressionnante. Il y a aucun, je ne dénigre surtout pas, nous ne dénigrons surtout pas les cavistes de proximité qui font un travail formidable, mais force est de constater que un vigneron a la capacité, par exemple, par le biais d'Internet, de vendre quasiment 5000 bouteilles, par exemple, en une seule journée, à plus de 800 personnes à travers la France, sans bouger. Pour les vignerons, c'est l'occasion aussi de se concentrer sur son travail premier, qui est de s'occuper de la vigne et de la vinification.
Mais l'intérêt premier, Christian Martrait, malgré tout, pour le consommateur, c'est d'avoir de bons prix, de payer des bouteilles de vin moins chères que s'il les achetait justement dans les, on va dire, les canaux de distribution traditionnels, non ?
Évidemment, évidemment. Et donc, les sites proposent évidemment des prix adaptés, qui sont généralement des prix qui sont ou les prix propriété ou des offres spéciales, des ventes qu'on appelle des ventes flash,
sur quelques jours, une semaine, un mois. Olivier, qu'est-ce que...
Je vais rebondir sur ce que Christian exprimait tout à l'heure, qui pour moi me paraît intéressant vis-à-vis d'Internet, dans le monde du vin avec Internet, c'est effectivement la capacité sur des vignerons vraiment connus et reconnus, qu'on sélectionne sur des quantités vraiment limitées de temps à autre, pouvoir en faire bénéficier sur l'ensemble du territoire français. Et là, avec tout le respect qu'on a pour nos amis cavistes qui font un boulot formidable, bien sûr, mais vous êtes au fin fond de la Bretagne, au fin fond du Sud-Ouest, et vous avez un vigneron bourguignon auquel l'accessibilité est pas forcément facile, et on peut l'avoir uniquement avec une commande sur un cliquage sur ordinateur. Je trouve ça assez formidable de pouvoir répartir la possibilité sur l'ensemble du territoire d'avoir des grands vins d'expression.
Mais alors, quand on dit vente à la propriété.com, c'est uniquement du vin de propriété, ou ça peut être aussi du vin de négociants, de grandes maisons?
Oui, vous savez, dans l'univers des négociants, il y a des gens qui sont négociants, mais qui ont aussi, ils sont aussi propriétaires de vignes.
Ah oui,
vous savez, des grandes maisons historiques ont aussi des vignobles.
On a nos amis de Bouchard, père et fils qui viennent régulièrement, voilà. Donc c'est un très bon exemple.
Ce que je voulais vous dire, c'est que le terme vente à la propriété, nous achetons effectivement à la propriété, directement.
D'accord. Acheter du vin sur Internet, ça veut dire qu'il va être trimballé à droite à gauche, notre domicile. C'est pas dangereux, ça, pour un vin comme ça, d'être, on va dire, pas malmené, mais disons faire des kilomètres supplémentaires comme ça, avec forcément une entreprise qui n'est pas spécialisée. On peut imaginer que le livreur.
Tout de suite, quoi.
En l'occurrence, bon, la logistique sur vente à la propriété.com est efficace. Le stockage, on a bien sûr, il peut y arriver qu'il y ait un peu de casse, mais honnêtement, je crois qu'on est très très bien équipé là-dessus. La seule chose qui est problématique souvent quand le vin voyage, c'est dans les conditions estivales, parce qu'il fait chaud, oui. Parce que vous savez que l'alcool peut se dilater dans la bouteille avec la chaleur, pousser le bouchon.
Qu'est-ce qu'on fait là ? Quand on commande du vin sur Internet et qu'on le reçoit, il faut attendre avant de le consommer.
Bien
combien
sûr.
De temps ?
Bien sûr. Alors, il faut attendre la plupart des vins comme ça qui sont...
Un bon mois, non ?
Oui, facile.
Oui.
Il faut donner toutes ses chances à au vin de s'exprimer. Donc, moi, j'ai tendance à dire un vin qui a été transporté. Donc, il a été remis, je dirais, le liquide a été quand même pas mal balbutié et tout ça. Il faut quand même attendre.
D'accord. On va parler aussi de la possibilité de transformer un local qui n'est pas forcément une cave en lieu de stockage. On a Franck Rambeau qui est patron de Winemaster, c'est ça, Franck Rambeau, je me trompe pas?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Christian, bonjour Olivier.
Alors
bonjour.
Vous développez des solutions. On a un pavillon, on a une pièce qui est en fait un bout de garage ou un cellier, mais c'est pas enterré. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir y mettre une climatisation. Qu'est-ce que vous conseillez?
Écoutez, on travaille aussi bien avec les professionnels qu'avec les particuliers, dans toute la France et également à l'export. Et avec la gamme de climatiseurs de cave à vin Winemaster que nous distribuons sur la France, vous avez la possibilité de transformer, on va dire éventuellement, une partie du garage, un cellier, une buanderie, en petit espace caravane.
C'est ça. Il faut le séparer du... On est bien d'accord que, par exemple, si on a un bon diesel qu'on fait démarrer tous les matins, il vaut mieux que ça soit séparé de la partie caravane. Hein.
Absolument. De toute façon, le local doit être isolé correctement. Ça doit être un local étanche.
Oui.
Et ensuite, par la suite, on fait du sur-mesure selon la région, selon le client, selon la capacité de vin qu'il veut avoir en cave.
Et on a Olivier Poussier qui est là et qui me fait un signe avec son pouce en disant « ça, c'est du beau boulot ». Donc, vous voyez, un avis très positif là. Donc, c'est comment on choisit, parce que c'est pas une clim ordinaire. Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette clim de cave?
Alors, c'est pas une clim ordinaire. En fait, c'est un climatiseur qui est vraiment dédié et construit pour une cave à vin. Donc, pour vous la faire courte, un climatiseur de maison ou de bureau va assécher l'air en permanence.
Oui. Alors que là,
on va créer de l'humidité avec un recyclage de condensat.
Oui, d'accord.
Donc, de condensat, c'est-à-dire que très humide.
On recycle l'eau que le climatiseur a asséché, si j'ose dire, en vapeur, quoi.
Absolument. Voilà. Donc, si vous voulez, vous allez toujours vous retrouver, si le local est bien isolé et bien conçu dès le début, avec un taux d'hygrométrie entre 60 et 80%, ce qui est
assez
pour les vins.
Restez avec nous, Franck Rambeau. On va avoir une petite coupure, si on veut dire. Hein?
Tout à fait. Comme ça. Une petite coupure. Et on revient avec nos invités 10h moins le quart. On retrouvera entre autres la question d'Éric, qui est la suivante. Il se demande si, en fait, dans une cave à vin, on peut stocker autre chose que du vin. Voilà, on va essayer de répondre à sa question. 32-16, si vous voulez bien nous rejoindre jusqu'à 10h pour évoquer les caves et le vin. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. Ou bien maison@rmc.fr. À tout de suite.
RMC, 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset.
RMC 9h48. Acheter du vin, le consommer avec modération, ça c'est une évidence bien sûr, mais après le conserver, ce vin, c'est le sujet de notre matinée avec Christian Pesset, Olivier Poussier qui est maître sommelier qui est avec nous, Christian Martré, sélectionneur des vins pour vente à la propriété.com, Franck Rambeau, patron de Winemaster, et puis Éric Leclerc qui nous a rejoint, directeur d'Edicave. Christian, une question, celle de Éric qui nous dit, est-ce qu'on peut stocker autre chose que du vin dans une cave à vin, comme par exemple, pourquoi pas des fruits et des légumes?
Olivier, non.
Surtout pas. Non, surtout pas. Pas de pommes de terre, rien du tout. Vous savez que la plupart des méthodes de bouchage sont quand même encore le liège, même si aujourd'hui l'arrivée des plastiques, des normes à corques et des capsules à vis sont présentes aujourd'hui. Mais par le liège, il y a de la micro-oxygénation, il y a un échange gazeux et effectivement toute possibilité d'apporter des odeurs néfastes effectivement au vin.
C'est-à-dire qu'après ça pourrait transpirer sur la qualité du vin.
Absolument. Rappelons aussi la nécessité que la cave soit obscur, hein, qu'il n'y ait pas de lumière pour pas avoir ce qu'on appelle le goût de lumière.
Oui, alors c'est vrai que c'est surtout la fragilité des vins en bouteille blanche, hein, bien qu'il y ait eu des progrès maintenant dans les bouteilles, mais ceci dit, le vin réagit aux ultraviolets, c'est surtout les substances aminées du vin qui réagissent aux ultraviolets qui provoquent des nez nauséabondes et des goûts durs et austères.
Très bien. On va peut-être demander à Éric Leclerc si on peut. On a une question amusante. Bonjour Éric Leclerc. Allô.
Bonjour
Éric Leclerc. On a une question amusante.
C'est la question de Gérard.
Allez-y.
Qu'on a reçu par mail tout à l'heure. Je souhaite faire une caravane dans un vide sanitaire de 1m50. Est-ce que c'est possible et comment construire
Il va pas falloir être très grand.
Et puis quel matériau utiliser aussi?
Il va pas falloir être très grand, mais je pense que plus sérieusement, faut quand même faire un trou et y mettre quelque chose qui ressemble à véritablement une cave. C'est un peu ce que vous faites, vous, chez Elicave. Comment ça marche, votre système?
Complètement. Alors, chez Elicave, vous savez, on construit des casiers en béton, en fait, qui nous font des formes. On peut faire des formes rondes et ovales. Donc, ça nous permet de construire des caves de toutes pièces.
D'accord. On va être en colimaçon, soit...
On va avoir un escalier qui va descendre. C'est pour ça qu'il est hélicoïdal et qui vient s'engraver dans les casiers en béton.
D'accord. Mais il faut quand même faire un trou. On est bien d'accord.
Bien sûr, il faut faire un trou. Nous avons un réseau de concessionnaires spécialisés.
Et est-ce qu'on peut pas mettre aussi votre système finalement en semi-enterré, c'est-à-dire une partie qui amorce dans la cave et puis une partie enterrée, c'est possible?
C'est possible, mais pas vraiment recommandé.
D'accord.
Parce que tous les atouts que nous confère le sol, justement, donc on vient reconstituer une vraie cave enterrée.
D'accord. Et c'est combien de bouteilles à peu près qu'on peut mettre dans...
De 600 à 4000 bouteilles.
Ah oui, quand même, là, c'est... Ouais. C'est... Bon,
c'est sympa.
Une belle mise en place.
Ouais, c'est sympa. Et puis on a différentes hauteurs, différents types de trappes d'accès.
Oui. Et ça coûte combien la mise? Alors, entre le produit lui-même et la réalisation, parce qu'il y a quand même un terrassement à faire, tout ça.
Disons que oui, il y a un gros travail de maçonnerie, c'est pour ça que nos concessionnaires sont très spécialisés, puisque on a tout type de sol et tout type de, on va dire, de dalles à traverser pour descendre la cave et ensuite on refait à l'identique en fonction des choix des clients ou alors certaines fois maintenant, de plus en plus, les gens veulent voir leur vin.
Oui.
Donc on met des trappes vitrées, mais bien sûr avec des traitements spéciaux pour le verre.
Bon, ça coûte cher quand même tout ça, non?
Ah oui, ça coûte.
Alors, allez, dites-nous, allez, lâchez un prix quand même.
Vous dire que ça coûte cher.
Je vais pas vous chauffer les pieds pour que vous finissiez par avouer.
Mais c'est vrai que c'est quand même pour les passionnés. On est sur des ordres de quelques kilos euros jusqu'à on monte très haut en prix, quoi, ça c'est sûr.
Quelques kilos euros.
Kilos euros, ça veut dire quelques milliers d'euros, voilà. quelques dizaines de milliers d'euros.
Jusqu'à, on va dire, pour des installations très luxueuses dans les 70 000 euros.
Oui, d'accord. Franck Rambeau, si vous êtes toujours,
toujours
avec nous, je dirais la même question, puisque là, vous allez permettre de transformer en cave un volume qui n'est pas forcément enterré. Faut compter combien pour l'installation d'un climatiseur, je sais pas, pour une cave, allez, d'une quinzaine de mètres carrés, par exemple, peut-être le classique.
Bah écoutez, le classique qui est le Winemaster C25, qui est donné pour 25 mètres cubes,
oui.
Isolé, commence à 1800 euros TTC livré.
D'accord, oui. C'est quand même, c'est pas fondamentalement différent de prix de climatiseur de maison. Enfin, sauf que là, on climatise que 15 mètres carrés, quoi.
Voilà, et puis bon, par rapport à une armoire à vin, c'est vrai que c'est un peu plus sympa quand même de rentrer dans son local avec des amis, de regarder ses bouteilles, de les classer par année, les vins à boire tout de suite, les vins à boire dans 5 ans, dans 10 ans.
Oui. Olivier, vous nous disiez que la tendance, c'était même une entrée dans le domaine de la déco, carrément.
Oui, je crois qu'il y a une marge de progression qui a été faite sur l'esthétisme aujourd'hui, allier l'utile à l'agréable, et effectivement, c'est aménager des espaces vitrés, c'est toujours assez joli, plus joli du moins qu'une armoire à vin posée au milieu du salon, c'est effectivement...
Alors, peut-être un peu pour finir, votre coup de cœur là par exemple, un rouge, un blanc et un champagne?
Eh ben écoutez, Christian, on parlait tout à l'heure de l'évolution du Muscadet. Mon coup de cœur irait sur un vigneron qui s'appelle Bonnet-Huteau, qui est un vigneron biodynamiste, mais qui fait un grand Muscadet définition terroir. Alors, il fait des Muscadets sur granit, il fait aussi sur de l'amphibolite, il fait une expression de melon de Bourgogne. Exceptionnel, melon, c'est le cépage du Muscadet,
oui,
vous savez.
Oui. Mais tout le monde ne le sait pas.
On parlait de ces régions qui, effectivement, auxquelles elles s'évouent un peu comme les vignobles du Beaujolais sur des agapes incroyables, dire qu'il y a des grands Muscadets de définition terroir. D'accord. Et aussi d'aptitude de vieillissement. Je voulais juste dire par rapport à ça. Il m'est arrivé un truc exceptionnel de goûter des Muscadets, c'est vrai, Maine 76, avec de l'aptitude de vieillissement, de la complexité. Et encore d'une énergie incroyable. Donc, Muscadet fait des grands vins d'expression minérale avec des beaux supports acides. Ils ont tous les éléments, quand c'est bien né à la base, pour faire des grands vins de vieillissement et de complexité. Un rouge sur le coup de cœur, sur le fruit, comme ça.
Oui.
Allez. Un joli Marsannay rouge. Un joli Marsannay rouge sur le fruit.
Le haut de la côte de nuit.
On appelle ça la côte dijonnaise d'ailleurs.
Voilà, c'est le premier cru de...
Parce que la côte de nuit commence, les villages de Chénov, Couchet, Marsannay, c'est la côte dijonnaise.
Ouais.
Le vignoble de la côte des nuits commence à partir de Fissin.
On est d'accord.
Avec un joli Marsannay rouge du domaine Bernard Bouvier en 2010. Magnifique.
Et puis on pourra même prendre un rosé, parce que c'est le seul rosé de Bourgogne, le Marsannay.
Il y en a eu en production maintenant, il y a une majeure partie de rouge.
Merci Olivier Poussier d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Et merci à Christian, bien sûr. Christian, on se retrouve bien sûr samedi prochain entre 8h et 10h. On parlera donc beaucoup d'immobilier, d'actes notariés, bien sûr, et de diagnostic immobilier. Vos questions au 32-16. Rappelons que vous pouvez retrouver Christian après cette émission sur la page Facebook de Votre Maison sur RMC, mais aussi sur maisonbrico.com.
Votre Maison sur RMC avec Isola France. Isola France, votre solution isolation.
Et dans un instant sur RMC, après la météo et les infos 10h, vous retrouverez les grandes gueules du sport. Serge Chimon, Gilbert Bribois. Messieurs, bonjour.
Salut
bonjour.
Tout le monde.
Bonjour, messieurs.
On vous a laissé une petite bouteille, hein, histoire de vous.
Mais attends, mais on n'y comprend plus rien. Vous parlez de bricolage
oui,
ou
moi,
vous parlez
de pinard.
Alors, je vois que. Cela dit, on a parlé de cadavins tout à l'heure. La cadavins, elle est où dans la maison?
Mais alors, c'est comment monter la cave à vin?
Et bien sûr,
mais oui, mais
vous,
oui.
Vous nous écoutez
mais aussi
pas, en
comment
fait.
L'équiper. Enfin,
vous nous écoutez
voilà.
Pas.
Et comment la remplir hein. Voilà.
Je suis un peu déçu quand même.
Non mais on écoute, mais on prépare aussi notre émission.
Bon, pendant ce temps-là, avec Christian, on va se boire un verre.
Donc, bah oui, alors nous on est totalement sobre avec Serge. On est...
Ah oui, le sport, bien sûr. Ah,
toujours.
La sobriété, hygiène de vie, rigueur morale, stabilité affective.
Mes budgets en baisse, et on va en parler.
Oui, c'est ça. Budgets. Pour plus acheter du vin.
Ouais.
C'est un de nos sujets, Gilbert, dans les grandes gueules du sport. Effectivement, le budget des sports en baisse, logique ou choquant, c'est une des questions qu'on va vous poser. On va commencer par du foot, et puis après, on va faire plein de sport et même de la politique du sport, c'est ça les grandes gueules du sport. C'est de 10h à 13h. On vous attend en 32C, Gilbert.
A tout de suite.